dans le dugout.
And the tying run will come to the plate.
Rounded out to Bobby Witt Jr., and the game is over.
You can put it in the left-hand column. The Kansas City Royals, in 10 innings, get a 7-4 win to close out the series and earn a win over the Toronto Blue Jays.
Les Blue Jays de Toronto qui recevaient les Royals de Kansas City ce week-end à Toronto, une série de 3 matchs qui suivait une série de 4 matchs contre les Orioles où Toronto n'avait gagné qu'un match sur 4. Mais contre Kansas City, on en a parlé déjà depuis le début de l'émission, ça a été difficile aussi. Une seule victoire en 3 rencontres. Oswey Perlé est avec nous ce matin. Bon matin Joe, comment vas-tu?
Bon matin Jasmin, ça va très bien toi?
Bon début de semaine, merci d'être là. Je vais très bien, c'est gentil.
Ben écoute, c'est une... Là, c'est parti pour de vrai.
Ouais. Là, on change un peu de registre parce que la semaine dernière et la semaine précédente, on se parlait beaucoup de date limite des transactions, toi et moi. Là, on est vraiment dans l'action concrète, comme on dit, du dernier sprint. En fait, c'est un petit peu plus qu'un sprint. C'est pas un marathon, mais c'est à mi-chemin entre les deux, ce qui va nous amener jusqu'à la fin du mois de septembre avec les séries éliminatoires. Ce week-end-là contre les Royals, et je dirais peut-être de manière plus globale, cette semaine-là contre les Orioles et les Royals, c'est une semaine qui nous ramène un peu sur terre là, par rapport aux Blue Jays, j'ai l'impression, Josué.
Ben écoute, je pense que ça nous ramène sur terre, puis on l'avait un peu dit aussi, là, c'est normal là, qu'il y ait des équipes aussi, même les meilleures équipes là, vont connaître des moments comme ça, puis écoute, c'est quand même des très bons matchs qu'ils ont joué, mais c'est ce que j'aime du baseball majeur cette année, là, que la parité est tellement bonne, écoute, tout le monde, je pense, peut battre tout le monde, puis c'est ça que ça donne.
Il y a certaines équipes qui ont plus de difficultés à gagner de temps à autre, mais t'as raison de dire que de manière générale, on a une belle parité si t'exclus les Rockies du décompte et les White Sox dans l'Américaine, mais pour le reste, on a une belle parité quand même, plusieurs équipes qui peuvent espérer aller en éliminatoire. Quel match a retenu peut-être le plus ton attention ce week-end? Je sais pas si tu veux qu'on décortique les 3 exactement. Vendredi, une défaite de 9-3. Samedi, la victoire de 4-2 sur une belle sortie de Max Scherzer. Dimanche, un match qui était égal 2-2 quand on va en 10e manche et au final, on a accordé 5 points en 10e manche pour, je dirais, échapper ce match-là qu'on avait une chance de remporter. Ce matin, l'impression aurait été bien différente si les Jays avaient pu gagner dans cette 10e manche hier et remporter 2 matchs sur 3. Là.
Ben écoute, c'est certain que le match qui attire mon attention, c'est ça, le match de hier. Bon, lorsque tu as un match, tu as une série de 3 matchs, mais que t'as perdu le premier, t'as gagné le deuxième. Bon, c'est le match là qui devient le plus important. L'important au baseball, là, c'est pas gagner tous les matchs, c'est bien gagner des séries. Donc, tu as tout le temps gagné les 2-3 et 3-4. Et bon, écoute, on est content avant hier, Scherzer, on le voit, on dirait qu'il devient là un petit peu le lanceur qu'il était, surtout depuis qu'il est revenu de sa blessure, mais ça fait mal hier. Lorsque t'es à la maison, t'as une chance de gagner, t'as une chance de revenir, puis je pense que les Royals, là, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, c'est surtout que c'est la relève qui a flanché un peu. Dominguez, peut-être qu'on l'a utilisé 2 jours de suite. Là, on a vu un petit peu, peut-être qu'on l'a exposé un petit peu, mais on a pu voir pourquoi nécessairement, là, pourquoi aussi peut-être que les Orioles l'ont échangé. On le sait qu'il est très bon, mais bon, on voit aussi là, qu'il est capable de perdre le marbre un peu, puis c'est ça que ça l'a donné hier.
Ben oui, parce que samedi, il avait bien fait. Lui et Jeff Hoffman ont lancé en 8e et en 9e pour aider les Jays à l'emporter 4-2 et à sécuriser cette victoire-là. Mais le lendemain, hier, comme tu le dis, ben c'est une manche de... En fait, il n'a même pas réussi à lancer une manche. Il n'a pas réussi à aller chercher de retrait. Il a alloué 3 points mérités, 2 coups sûrs, but sur balle également. Alors, ça a été beaucoup plus difficile pour Sir Anthony Dominguez. Je amène sur le retour des blessés, mais on en a ajouté. C'est-à-dire qu'il y a eu le retour d'Alejandro Kirk, il y a eu le retour de Dalton Varsho, mais on a placé George Springer sur la liste des blessés pour une commotion cérébrale. Ça nous étonne pas nécessairement par rapport à ce tir là, qu'il a reçu sur la tête la semaine dernière en 9e manche. Alors oui, il y a des retours, mais en même temps, d'avoir Springer qui est maintenant absent, ça c'est dans la colonne des négatifs, comme on dit. Nous.
Oui, exact. Puis surtout que Springer, là, c'est un joueur qui avait une saison incroyable cette année. Je pense que c'est même un joueur qui va être peut-être nominé pour le retour de l'année aussi. Là. Écoute, ouais. Il a eu une saison quand même assez difficile l'année dernière. Et là, cette année, ça allait super bien. Moi, je pense, Jasmin, si ça l'avait été, exemple, les séries, là, je pense pas qu'il aurait été dans le... qu'il aurait placé là, dans la liste de blessés. Ben écoute, on le sait jamais avec la tête, il faut faire très attention. Écoute, on le sait qu'il a reçu un tir là quand même assez fort, direct sur la tête. Mais c'est certain que ça fait mal, mais moi je pense que je suis très content là, de voir Varsho puis Alejandro Kirk. Ça va faire du bien aux Blue Jays.
Shane Bieber, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir ça un peu. Enfin, j'ai pas vu le match samedi, mais on a vu les statistiques. Shane Bieber au niveau 3A avec les Bisons de Buffalo commençait à avoir l'air d'un lanceur qui pourrait revenir dans les majors bientôt. Et ça, ça doit faire du bien aussi pour les Blue Jays parce qu'on ne manquera jamais de... En fait, on n'aura jamais trop de profondeur là, au niveau des lanceurs. Samedi, il a lancé 5 manches au niveau 3A, 6 retraits au bâton, 2 points alloués. Alors, c'est de bonne augure quand même. Il est maintenant rendu à 16 manches et 1 tiers là, dans les ligues mineures de lancer dans cette remise en forme. Là.
C'est ça qui va être intéressant de voir comment il sera utilisé avec, avec les Blue Jays parce que, bon, on va être rendu à 5 lanceurs partant si on se dit bien sûr là, qu'ils vont enlever peut-être Lauer de son poste de 5e partant. Peu importe comment on va utiliser, écoute, c'est un lanceur qui a déjà gagné le lanceur de l'année. C'est un gars qui va vraiment, comme tu viens de le dire si bien, venir aider là justement les bras des Jays, puis peut-être donner un peu plus de repos aussi à nos releveurs. Mais j'ai l'impression que si jamais, là, lorsqu'on va s'approcher peut-être des séries, ça va être un gars qui va être peut-être dans l'enclos des releveurs.
Explique-nous un peu comment ça se passe là-dessus, Oswey, parce que pour les amateurs, peut-être qu'ils sont moins familiers là, avec ce côté-là. Je sais que tu vas me dire chaque situation est différente et on le comprend bien, là, mais un gars qui n'a pas lancé depuis presque 2 ans, l'an dernier seulement 2 départs, aucun cette année avec cette blessure, là, Tommy John, cette opération qu'il a eue. 16 manches et 1/3 de remise en forme, je pense que c'est pas encore suffisant, mais tu t'attends à ce qu'il revienne quand exactement? Tu comptes ça comment pour savoir si un lanceur est prêt à revenir au niveau des majeurs après une aussi longue absence?
Bien, c'est certain qu'on va regarder le passé, premièrement, du lanceur. On va regarder aussi les autres lanceurs là, qui ont déjà eu cette opération-là, Tommy John. On va voir combien de manches à peu près que ça prend à chaque lanceur. Puis tu l'as dit très bien, chaque situation est différente, mais c'est surtout que les Blue Jays, ils viennent de l'avoir. Ils s'en vont dans les séries éliminatoires. Fait que c'est certain que tu vas avoir un Bieber qui va avoir peut-être lancé au moins un mois ou un mois et demi avant que les séries commencent pour justement savoir un peu c'est quoi que tu vas avoir sous ta main. Parce qu'il y a des lanceurs qui répondent super bien à l'opération Tommy John, puis qui même reviennent, puis qui lancent plus fort, j'espère, alors qu'il y en a d'autres ouais. que ça dure pas longtemps, puis même qu'ils en ont une deuxième plus tard. Donc, c'est très difficile à voir, mais il faut vraiment aller avec le passé, puis aussi comment le lanceur il se sent. Donc, on va regarder une journée, 2 jours, 3 jours après avoir lancé, voir comment son bras réagit. Et c'est certain là, que les Blue Jays regardent de très proche là, les statistiques. Donc, est-ce qu'il lance fort? Est-ce que les rotations de la balle sont là? Est-ce que les RPM? Donc, c'est beaucoup de choses à regarder. Mais je pense que le plus important ici, là, c'est vraiment savoir son passé et de savoir comment le lanceur se sent aussi.
Avant que je t'amène sur la suite des sujets baseball que je voulais te parler, pour conclure sur les Jays, j'en parlais avec Alexis. La semaine qui s'en vient, on s'en va dans l'Ouest. C'est le Colorado à partir de ce soir et à Los Angeles ce week-end. Qu'est-ce que t'évoques ce voyage-là? Parce qu'on va affronter la pire équipe du baseball majeur, les Rockies, et on va affronter ensuite l'une des meilleures. Elle n'a pas la meilleure fiche, les Dodgers, mais on s'entend que c'est pas mal dans les équipes qui font le plus peur à affronter pour n'importe quelle formation. Alors, c'est un voyage avec deux équipes totalement à l'opposé, sur la côte ouest aussi. Qu'est-ce que tu te rappelles, toi, de ces voyages-là sur la côte ouest?
Écoute, les voyages de la côte ouest, c'est les plus difficiles. Normalement, tu es habitué de jouer donc à 19h, heure de l'Est. Alors, tu arrives là-bas, tu joues 19h, heure de l'Ouest. C'est comme si c'était très tard. Colorado, selon moi, c'est la place la plus plaisante pour jouer pour un joueur de position.
pour un lanceur, un peu moins.
Bon, la moins plaisante pour les lanceurs, mais... Écoute, tu t'en rends vraiment pas compte, là, mais après une journée que t'es là-bas, quand t'es pas habitué, là, le lendemain, tes jambes sont lourdes. L'air est tellement fin. Là.
Tu sens à ce point-là, cette différence-là, je trouve ça intéressant de t'entendre. Moi, j'ai jamais eu la chance d'y aller au Colorado, mais tu la sens vraiment rapidement comme ça, cette différence-là avec le Colorado?
C'est surtout le lendemain. C'est surtout le lendemain. Moi, j'avais tout le temps une petite anecdote. J'avais tout le temps l'habitude d'aller courir. Là. Tu sais, tu fais toutes les marches de tout le terrain au complet. Là.
Ouais, ouais, ouais.
Tu sais, j'aimais ça, faire ça la première journée dans tous les terrains que j'allais, surtout lorsque c'était la première fois. Aller voir tout le terrain, tu pourrais aller voir, tu avais des belles vues. Tu pouvais, en tout cas, c'était.
Ça te permettait de voir un peu chacun des stades puis de te faire des souvenirs un peu. Là.
Exact. Là. Donc là, ça faisait 10-12 minutes que Puis là, je dis, mon Dieu, pourtant, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas, je manquais d'air. Puis là, j'avais complètement oublié que j'étais au Colorado, puis j'avais oublié que ça pouvait arriver. Écoute, fait là, j'ai commencé à en parler avec les trainers, puis le lendemain, là, j'avais tellement mal aux jambes, j'avais de la misère, puis là, je comprenais pas. Et un des trainers, justement, il me dit, mais Rousseau, on est au Colorado. C'est normal, tu manquais d'air hier, fait que c'est normal que ça fasse mal aujourd'hui, etc., etc. Donc, lorsque tu habites là-bas, où les Rockies sont habitués de jouer à la maison, donc lorsque des équipes viennent, surtout les équipes de l'Est qui sont pas habituées d'y aller, ça devient un peu plus difficile. Puis écoute, la pression va être là. Je pense que la série la plus importante va être celle-là contre les Rockies, parce que ensuite contre les Dodgers, ce qui est plaisant, c'est que tu vas vraiment là, venir t'affronter contre une équipe qui va probablement ressembler à toutes les autres équipes qui vont être là dans les séries. Donc, ça va être une semaine là, sur deux étapes, selon moi.
Tu me parles justement des Rockies. Ça m'amène sur l'un des sujets que je voulais te parler. J'ai identifié un match par jour, vendredi, samedi et dimanche, sur lesquels je voulais revenir avec toi. Celui de vendredi que j'avais identifié, c'est Rockies-Pirates. Et là, les gens vont me dire, ben, il me semble que c'est un duel horrible sur papier. Ça a été l'un des meilleurs matchs de la saison dans le baseball majeur. Une victoire de 17-16 des Rockies. Les Rockies perdaient par 9 points dès la première manche et ont finalement gagné ce match-là. C'est le genre de scénario qui arrive à peu près jamais. D'ailleurs, c'est la première fois depuis 2006 là, qu'une équipe qui perdait par 9 points finit par gagner un match. Je sais pas si tu as eu une petite attention sur ce duel-là qui était en fin de soirée vendredi, mais moi, quand j'ai porté mon œil là-dessus, je me suis dit, aïe aïe, c'est le genre de match qui arrive pas souvent dans une saison. Là.
Non, c'est le genre de match que lorsque t'es un frappeur, t'es content.
Ezekiel Tovar, 4 doubles dans le match. Là.
Ah, exact. Et non, puis écoute, j'ai très bien regardé là, le lendemain, surtout là, lorsque j'ai vu ça. Et déjà que tu perds 9-0, tu dis bon, on lance la serviette, le match est fini.
Et t'es les Rockies qui sont très mauvais en plus, et tu perds 9-0 en première manche.
Puis t'as probablement, il y avait déjà échangé quelques joueurs aussi. Puis même les Pirates, c'est deux équipes justement là, que lorsque t'es rendu comme ça, Jasmin, c'est t'adores faire les troubles fêtes, hein. T'aimes ça, là, venir aller battre des équipes qui sont proches, là, justement, de faire les playoffs. Et là, c'est une journée qui savait que c'était deux équipes qui avaient justement rien à perdre. Et c'est des choses comme ça qui arrivent. Ça fait un beau match de football dans un terrain de baseball.
Exact. Samedi, c'était un duel de partant que je surveillais entre deux des meilleures équipes du baseball majeur, les Tigers et les Phillies. Tarik Skubal et Zach Wheeler. Oswey, on pourrait débattre tous les deux. Je sais pas où est ton opinion, mais moi, je pense que c'est peut-être les deux meilleurs lanceurs présentement dans tout le baseball majeur, Tarik Skubal et Zach Wheeler. Et les deux s'affrontaient samedi. Les deux ont eu 10 retraits au bâton chacun, donc 20 retraits au bâton. Les frappeurs ont quand même réussi à performer parce que le match s'est quand même terminé 7-5 en faveur des Tigers. Alors, il y a eu quand même des points, mais on a eu la chance de voir dans ce duel-là deux lanceurs qui sont spectaculaires à voir lancer et qui sont les deux meneurs du baseball majeur pour les retraits sur 3 prises cette année.
C'est tellement plaisant de voir justement ces lanceurs-là lancer. Lorsqu'ils lancent un contre l'autre, on est encore plus chanceux. Et tu as tellement raison lorsque tu dis que c'est des. Selon moi, là, sont dans le top 3 ou 4 justement meilleurs lanceurs de la ligue. Là,
Skubal, selon moi, est le numéro 1. C'est Wheeler là, qu'on pourrait débattre si c'est le numéro 2, mais que lui, selon moi, Skubal, c'est le numéro 1 incontesté présentement. Là. Mais t'as Skeens aussi avec les Pirates. La place de numéro 2 est peut-être plus débattable, selon moi.
Ah, oh, selon moi, c'est 100% aussi, là, Skubal, là, depuis l'année dernière. Là, c'est sans aucun doute un gars qui lance à 5 jours, il va tout le temps te donner au moins 6 ses manches, tout le temps 7, 8, 9, 10 rétro au bâton, et il te donne une chance de gagner et d'avoir justement là, de lancer contre Wheeler, là, comme tu dis, là, je pense avec Paul Skeen, Yamamoto peut-être un petit peu aussi là, avec les Dodgers, que probablement que les Blue Jays vont affronter, selon moi, là, c'est dans les meilleurs. Là.
qu'est-ce que tu regardes, toi, quand tu regardes si un lanceur est dominant? Moi, évidemment, je regarde ça d'un œil plus d'amateur. Puis bon, on regarde le lanceur, comment il peut être spectaculaire, comment il peut sortir des situations difficiles, comment il peut aller chercher un retrait sur trois prises dans des moments opportuns. Toi, de ton œil d'analyste de baseball, qu'est-ce qui t'impressionne quand tu te mets à regarder un nouveau lanceur et à pouvoir te dire, est-ce que celui-là, c'est un vrai ou c'est pas un vrai?
Écoute, moi, c'est la constance, Jasmin. C'est le fait d'aller lancer, là, puis à chaque fois que t'es sur le monticule, t'es capable d'avoir des performances qui donnent une chance à ton équipe ou de gagner le match ou de rester justement dans le match. Ben, et lorsque t'ajoutes de la vitesse, lorsque t'ajoutes du contrôle et lorsque t'ajoutes une façon d'être sur la butte, là, justement, comment ton comportement ou comment l'attitude, justement, que tu as sur le monticule, lorsque tu mélanges tout ça, pour moi, ça donne un screwball, un skein, ça donne un wheeler, justement. Là.
Le match sur lequel je voulais terminer, c'est celui qui était présenté au Bristol Motor Speedway entre les Braves d'Atlanta et les Reds dimanche. J'ai pas eu la chance de voir le match, mais j'ai vu les images un peu. C'était la première fois qu'on présentait un match dans l'État du Tennessee, et c'est la plus grosse foule de l'histoire du baseball majeur pour un match de saison régulière. 91 032 spectateurs pour la victoire des Braves. Alors, ça a été un moment historique quand même hier dans le baseball majeur de voir ce match-là. Est-ce que c'est un prélude à une équipe éventuellement dans l'État du Tennessee à Nashville qui pourrait arriver? En tout cas, les gens du Tennessee ont laissé une belle impression au baseball majeur, là.
Ben écoute, Tennessee, c'est une ville qui adore le sport, là. Tu sais, ils ont du hockey, ils ont du football, là, ils ont du basket. Donc c'est une équipe que c'est un état, je pense, qu'il leur manque une équipe de baseball. C'est un match quand même incroyable de pouvoir faire ça. Pour ceux qui connaissent moins le NASCAR, c'est un sport, c'est une religion quasiment aux États-Unis. Alors
Analyser ça aussi, le NASCAR?
Pardon?
Tu pourrais nous analyser ça aussi, les courses de NASCAR?
Ça, il y a beaucoup moins de chance, par contre.
Non, mais bon. Je sais qu'aux États-Unis, tu as sûrement eu la chance de constater comment les gens ont l'intérêt pour le NASCAR là-bas.
Ah, oh, mais c'est pour ça que je le disais, c'est fou comment c'est gros le NASCAR. Donc, de faire un match justement là pour les Américains, c'est incroyable. Moi, ce qui m'a étonné, là, c'est oui, c'est un petit peu le baseball, mais c'est vraiment l'angle de la route ou de la piste.
Ouais.
Là-bas, là, lorsqu'il y a eu une fausse balle, puis là, ils ont montré des images là, justement comment la balle a descendait. Il y a un monsieur qui a essayé de lancer la balle par-dessus. Écoute, là, c'était même pas proche là, d'être capable de se rendre, mais c'était vraiment impressionnant. Puis, tu sais, on le voit avec le hockey, là, avec les matchs qu'ils font dehors et des matchs spéciaux comme ça. Je pense que le baseball, là, si on pouvait commencer à faire ça là, un petit peu plus, ça amènerait justement là, des matchs comme ça. Là.
Il nous reste quelques minutes, Azoué. Je voulais te parler sur un angle un peu plus local. Il y a un des jeunes Québécois à travers le baseball majeur et le baseball des ligues mineures que tu connais très bien, c'est Édouard Julien. Vendredi, il a été rappelé par les Twins du Minnesota. On était bien contents pour lui. Quand on a vu toutes les transactions que les Twins ont fait jeudi, je suis certain que tu t'es dit la même chose. Ça va ouvrir la porte pour un retour d'Édouard Julien dans le baseball majeur. Tu sais qu'il n'avait pas commencé la saison de la manière qu'il l'aurait souhaité assurément avant d'être renvoyé au niveau 3A. Mais au niveau 3A, il avait une moyenne à 276, 11 circuits, alors réussissait à frapper. Et là, il a été rappelé ce week-end. Il a frappé un double, notamment samedi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Édouard Julien? Parce que je sais que tu le connais bien personnellement et que tu travailles avec lui à chaque hiver. Là.
Écoute, c'est sûr qu'on s'est parlé dès que la période d'échange était finie. Je voulais pas lui parler avant, on sait jamais.
Ouais.
Écoute, tout le monde est capable d'être échangé. Je le dis toujours, si Wayne Gretzky s'est fait échanger, selon moi, tout le monde est échangeable.
Ben oui.
Alors, on s'est parlé après, puis écoute, c'est certain que je suis content. Le baseball, surtout pour nos Québécois, là, c'est un marathon. C'est certain qu'on est très content d'avoir quelqu'un lorsqu'il se rend des majeurs. Ben écoute, ça a été difficile au début de l'année, comme tu le dis. Et lorsque tu viens dans le 3, là, c'est de mentalement te remettre dedans puis te dire, bon, écoute, la seule chose que je peux contrôler, c'est comment je travaille fort ici puis comment ça va. Et lorsque mon retour viendra, ben, il va falloir que je le prenne. Alors, il a encore son opportunité. Il a encore la chance là, de pouvoir montrer aux Twins qu'est-ce qu'il est capable de faire. Il reste quand même un mois et demi, là, peut-être presque deux à la saison. Alors, très content pour lui, puis on va espérer espérer là, justement qu'il va reprendre la forme qu'il avait dans le 3, parce que t'as raison. Il avait ses buts sur balle, il avait sa puissance, la moyenne était revenue, alors je pense que sa confiance est revenue, alors on va espérer que ça va bien aller là, pour le reste de la saison.
Et on va espérer que ça soit dans un bon contexte, parce que les Twins là, viennent d'échanger à peu près la moitié du vestiaire, et je lisais cette semaine là, on entend que certaines rumeurs comme quoi l'ambiance serait très moyenne dans le vestiaire des Twins, et de par le fait de tous les échanges qu'on a fait pour une équipe qui était quand même seulement à 5 matchs des éliminatoires jeudi lors de la date limite des transactions, il y a des rumeurs d'une vente potentielle des Twins, là, évidemment ça se passe des niveaux bien au-dessus du niveau du vestiaire, tout ça, mais ça semble être une équipe qui se cherche un peu présentement. Alors j'espère qu'Edouard va trouver quand même le bon contexte là-dedans pour se sentir bien et pour performer.
C'est sûr que c'est très difficile, je vais te l'avouer, lorsque j'étais avec les Jays ma dernière année, puis on avait échangé beaucoup de nos joueurs. Là. C'est surtout très difficile pour les entraîneurs, parce que justement, là, tu te dis, bon, l'organisation ne fait plus confiance aux joueurs qui étaient là. Tu en échanges 10, tu reçois tout le monde des mineurs. Qui tu fais jouer? C'est quoi le plan pour l'équipe l'année prochaine? Qui tu penses garder? Qui tu penses pas garder? Ça va être quoi les mouvements pendant la saison morte? Donc, c'est certain que ça fait une ambiance différente. Ça fait une ambiance un petit peu plus difficile. Alors, pour les joueurs, c'est certain que ça devient encore un peu plus difficile.
Je conclurai ce tour d'horizon, Osway, en parlant des deux adversaires directs des Blue Jays de Toronto, parce que les deux ont connu un week-end fort différent, c'est-à-dire les Red Sox de Boston et les Yankees. Je le disais, les Red Sox sont maintenant l'équipe derrière les Blue Jays dans l'Est. Les Red Sox ont gagné leurs 3 matchs contre les Astros de Houston, un balayage contre les Meneurs de l'Ouest, alors qu'à l'inverse, les Yankees ont perdu leurs 3 matchs contre les Marlins de Miami. Alexis en parlait tout à l'heure, c'est la première fois de l'histoire que les Marlins balaient les Yankees dans une série. Alors, c'est deux équipes qui vont dans des directions, pour l'instant, opposées. Et ce sont maintenant les Red Sox qu'on surveille derrière les Blue Jays. Là.
Ben écoute, tu vois comment ça peut changer, hein? on parlait justement vendredi à quel point les Yankees s'étaient améliorés, puis pourtant le premier match qu'ils ont reçu là justement leurs deux lanceurs de relève qui sont supposés être des lanceurs numéro des releveurs numéro un n'ont pas fait le travail. Les Marlins sont en feu. C'est une équipe qui joue bien dernièrement. Et on connaît les Red Sox. On n'en a pas trop parlé pendant la date limite des transactions, mais regarde ce qu'ils viennent de faire. Ils viennent de battre une très bonne équipe. En plus, les Astros qui venaient d'avoir aussi là, Correa, on l'a vu, ouais, qui a super bien joué. Donc, eux autres aussi, il y avait beaucoup d'énergie. Et ça l'a changé vite. Écoute, on peut-être qu'on va se parler vendredi, puis on va parler que c'est peut-être les Yankees qui sont en feu, ou même encore les Jays qui vont être revenus et à jouer du bon baseball. Donc, pour moi, c'est le fun. Pour moi, j'adore ça. Je suis content que les équipes se battent comme ça, mais je pense que ça va juste prouver aux Blue Jays que des séries de défaites puis perdre des séries comme ça là, contre à chaque semaine, là, on pourra pas se permettre de faire ça.
Ouais, le premier soir, les Yankees contre les Marlins, t'en parles vendredi, c'était une défaite de 13-12. Jake Bird, un tiers de manche, 4 points mérités. David Bednar, une manche et deux tiers, 4 coups sûrs et 2 points mérités. Et Camilo Doval, un tiers de manche, 2 coups sûrs et 1 point mérité, c'est lui qui a la défaite. Alors, je m'imagine dans la tête d'Aaron Boone, lorsqu'il est revenu dans son bureau après ce match-là, en se disant, on était supposé être allé chercher 3 releveurs pour nous aider, et les 3, un après l'autre, ont coûté ce match-là. Là.
Ben écoute, c'est certain, c'est ça qui est plaisant avec le baseball. On l'a vu avec les Blue Jays, hein? C'est Varland qui a donné un point, c'est ensuite
Dominguez
qui en a donné, ouais, qui en a donné d'autres. Donc, plus souvent qu'autrement, ces lanceurs-là vont venir vraiment t'aider. Jasmin, ces lanceurs-là vont venir vraiment fermer la porte. Mais comme tu as pu voir, là, il arrive des choses comme ça. C'est sûr que tu t'attends à ce que les 3, bon, un des 3, peut-être ça l'aille moins bien, mais là, c'était les 3 en même temps. Pour les Yankees. Donc, c'est certain qu'Aaron Boone, là, il devait pas bien se sentir après le match. Il doit se dire, bon, à recommencer.
Beaucoup de baseball à suivre dans les prochains jours. Il y en avait beaucoup aussi ce week-end. Merci, Osway, d'avoir fait ce petit tour d'horizon un peu avec moi. C'est un plaisir de te parler. Puis, on se garde ce rendez-vous-là toute la semaine encore jusqu'à vendredi à la fin de mon remplacement.
Parfait, Jasmin. Je te remercie. On se reparle demain.
Salut, Joe. Bonne journée.
OK, salut.